Bonjour, je suis Danilo Duchesne et vous écoutez le Rendez-vous Marketing, un podcast produit par DHS Digital, une agence de publicité Facebook qui vous aide à accélérer la croissance de votre entreprise en ligne. Avec ce podcast, ma mission est la même, vous aider à générer de la croissance pour votre activité via les différents canaux du marketing digital. C'est pour ça que j'invite des experts qui maîtrisent leur sujet et que je vous propose moi-même des épisodes très concrets sur mes domaines de prédilection, à savoir la publicité Facebook et la création de contenu. Si vous aimez écouter les épisodes du Rendez-vous Marketing, je vous invite comme d'habitude à vous abonner au podcast si ce n'est pas encore fait pour être notifié de la sortie des prochains épisodes. J'espère que le premier épisode de cette série sur le ciblage en multicanal vous a plu. Pour rappel, la semaine dernière, on vous a fait un résumé des possibilités de ciblage offertes sur Facebook Ads, Google Ads et YouTube Ads. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, vous en savez déjà beaucoup sur les possibilités de ciblage offertes par les deux plus grosses régies publicitaires au monde dans le digital. Mais qu'en est-il des autres plateformes ? Donc, je pense à Pinterest, à TikTok, à Snapchat. Donc trois médias sociaux où l'audience est tout de même moins importante que Facebook et Instagram combinés, et encore même de Google et YouTube. Et si je me penche sur leurs plateformes publicitaires, elles sont clairement moins avancées que Facebook et Google. Et d'ailleurs, les plateformes de Pinterest, TikTok et Snapchat sont assez inspirées de celles de Facebook. Mais cela n'empêche pas qu'il y a beaucoup de choses à dire en termes de ciblage sur ces trois plateformes. Donc pour chaque plateforme, on reviendra sur la démographie de l'audience qui s'y trouve, étant donné que ces plateformes sont plus nichées que Facebook, Instagram et Google. Et je vous propose de commencer par Pinterest, ensuite TikTok et on terminera par Snapchat. Alors pour Pinterest, je vais vous rediffuser un premier extrait dans lequel j'ai demandé à Nathalie Delot, experte de ce canal d'acquisition, de me parler un peu plus de l'audience d'utilisateurs sur Pinterest.
Bah en fait, c'est vraiment la typique de Pinterest pour le public, c'est qu'il y a quand même plus de 60% des utilisateurs qui sont des femmes. Donc, plateforme très féminine. Ouais. C'est ça qui différencie, bon, même si voilà, sur d'autres plateformes, il y a aussi pas mal de femmes. Hein. Mais quand on dit 60%, c'est même plus de 70% d'utilisateurs actifs qui sont des femmes.
Ah ouais, ouais.
Ouais. Et puis, moi, j'observe bien, hein, j'ai principalement des femmes. Et la plus grande part démographique, c'est les 35-49 ans, donc quand même une génération qui n'est pas la même que sur TikTok ou Snapchat, qui est beaucoup plus jeune. On se rapproche un peu plus du public de Facebook, mais avec ce côté féminin et pouvoir d'achat aussi.
Ouais.
Parce que, en fait, sur Pinterest, on va retrouver 30% de la génération Y, c'est les 25-40 ans, qui ont des revenus supérieurs à 90 000 euros par an. Eux, ils sont sur Pinterest. Donc, c'est intéressant.
C'est hyper intéressant, ça, pour les annonceurs.
Bon.
Hyper intéressant. Mais c'est vraiment ce que j'avais entendu dans un autre podcast que je vais citer, hein, le Super Daily, où ils expliquaient exactement ce que tu expliquais là.
Oui, ben c'est marrant parce que j'avais entendu aussi sur Super Daily que je suis aussi de temps en temps.
Okay.
Oh, ouais. Donc, côté utilisateur féminin, pouvoir d'achat et plutôt un public plus âgé que sur les autres plateformes.
D'accord. Et comme tu le disais, ce qu'ils viennent faire finalement, c'est trouver de l'inspiration pour un projet qui leur est propre, donc par exemple refaire leur déco, refaire leur garde-robe. Est-ce qu'il y a d'autres activités que les utilisateurs vont faire sur Pinterest, d'autres raisons de revenir sur la plateforme? Parce qu'imagine, tu as fini ton projet, voilà, j'ai terminé mon projet,
c'est
déco.
Ça,
est-ce que j'ai encore intérêt dessus?
Est-ce que j'ai encore intérêt à venir? Fait, il y a pas mal de publics qui, parmi le public, il y a pas mal de personnes qui aiment les travaux pratiques, tout ce qui est manuel. Donc, ils vont être assez fans de tout ce qui est DIY, décoration, enfin, do it yourself.
Okay.
Donc, ces personnes-là, qui sont aussi versées dans le bricolage, vont venir régulièrement pour trouver des nouvelles idées de bricolage. Ce qu'on trouve sur Pinterest, c'est justement beaucoup de tutoriels, que ce soit les tutoriels, comme je disais, sur le bricolage, ça peut être des recettes cosmétiques maison, ça peut être faire ses vêtements soi-même. Donc, il y a cette catégorie-là. Et puis, il y a la catégorie des gens qui viennent vraiment faire leur shopping, une catégorie qui croit, parce que les statistiques là-dessus, elles sont assez claires. Donc, 84% des utilisateurs qui viennent sur Pinterest pour s'inspirer en amont d'un achat. Donc, ça peut être tout type de projet. Il y a quand même la moitié des personnes qui viennent pour faire du shopping, donc pour faire du repérage, un peu comme on fait du lèche-vitrine.
Donc, par exemple, je vais suivre telle et telle marque et je vais repérer des vêtements qui me plaisent, c'est ça?
Oui, c'est ça. Oui, oui. D'autant plus que maintenant, on a un onglet spécial shopping dans chaque profil Pinterest.
Ouais.
Mettons que, bon, je prends Sephora, qui est une marque qui fonctionne bien sur Pinterest, qui a un onglet shopping. On va pouvoir, alors, pas acheter directement encore sur la plateforme, mais en tout cas, on va pouvoir rechercher le produit qui nous intéresse.
OK.
Et voir les dernières nouveautés, en fait, aussi.
Donc, en gros, c'est une sorte de catalogue comme sur Instagram et comme sur Facebook ou rien à voir?
Oui, c'est un catalogue, ouais, parce que en fait, donc sur cet onglet, on va avoir c'est le catalogue qui est synchronisé avec la marque. Donc en général, d'ailleurs, ce qui marche bien sur, par exemple, un CMS comme Shopify, c'est complètement intégré, donc le catalogue va être mis à jour en permanence.
D'accord, donc on a vraiment une même fonctionnalité que pour Snapchat et pour Facebook. Shopify a pensé à tout, quoi. Ils se sont dit, il faut absolument qu'on ait une bonne intégration sur Pinterest. Ça faisait partie de mes questions pour y intégrer facilement un catalogue.
Oui, tout à fait. Ouais, c'est vraiment intégré et sur Shopify, ça fonctionne très bien. Ouais. Parce que dès l'instant où on installe l'application Pinterest, on va pouvoir avoir la balise qui est pluguée, plus le catalogue synchronisé. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est tout en automatique.
Ok, je vois. Et maintenant, j'aimerais bien qu'on revienne sur les thématiques les plus populaires sur Pinterest. Tu as un peu cité quelques thématiques intéressantes. Le DIY, donc le do-it-yourself,
oui.
La déco et la mode principalement, mais j'ai l'impression que dans ce que tu m'avais envoyé comme documentation, tu avais un peu plus de thématiques. Et est-ce que tu peux revenir là-dessus, sur ces thématiques-là, quelles sont les plus populaires, parce que comme tu t'en doutes, les personnes qui nous écoutent sont dans différents secteurs.
C'est sûr, oui. Non, c'est vrai que la décoration, ça reste une thématique historique de Pinterest,
ouais.
Puisque là, je te dis en pourcentage d'intérêt du public, on est quasiment à 70% du public qui vient pour la déco, donc les trois quarts du public est intéressé par cette thématique.
Énorme.
Après, ouais, c'est énorme. Ouais, c'est pour ça que des fois on dit Pinterest, c'est quoi? C'est la déco, la beauté, la mode. Des
la
fois,
beauté, ouais, bien vu.
Voilà. Et finalement, non, il y a d'autres thématiques et une qui fonctionne très très bien aussi sur la plateforme, c'est tout ce qui est lié à la cuisine. Cuisine,
ah oui.
Recettes, vraiment cette niche-là. Et je pourrais donner un exemple d'une marque qui fonctionne bien sur la cuisine sur Pinterest. C'est vraiment à pas négliger. Il y a la beauté, bien sûr. Il y a la moitié des personnes qui viennent pour cet intérêt-là. Le divertissement, donc ça peut être vraiment diverses choses, hein, divertissement. Il y a même aussi des applications de jeux parfois qui font des publicités sur Pinterest. Donc téléchargement pour des applications de jeux, ça peut être intéressant. La mode, bien sûr, mais plutôt la mode femme que la mode homme, étant donné le public.
Et la mode femme, ça reste quand même un sujet très porteur sur Pinterest ou ça reste dans la moyenne, on va dire, des thématiques qui sont appréciées sur la plateforme?
Oui, si, c'est porteur. C'est porteur, ça dépend de la façon dont c'est formulé, puisque les utilisateurs de Pinterest sont de plus en plus versés sur les thématiques éco-responsables, sur les thématiques body positive, par exemple. Donc, ça dépend de la façon dont c'est promu, en fait, sur la plateforme.
D'accord, compris.
Et puis, il y a une bonne part aussi de parents, enfin de mamans. Donc, des mamans qui vont s'intéresser à tous les sujets éducatifs, comment occuper les enfants. Ça, c'est aussi une bonne part de l'audience. Il y a le voyage, même si là, ça a été en perte de vitesse ces dernières années, tout ce qui était voyage. Le sport, en fait, le sport, la santé, le bien-être globalement. Et
au niveau du sport, c'est quel type de format? C'est des épingles images, vidéo, je suppose aussi?
Oui, vidéo par exemple. C'est vrai que je pense à la niche du fitness, tout ce qui est accessoires. Moi, j'ai vu des exemples de marques de fitness. Bon, bien sûr, à destination de ce public qui est pas un public qui va faire du cardio HIIT, mais peut-être des sports un petit peu moins. À moindre impact.
Ça peut être des sports plus individuels en soi, vu que tu disais tout à l'heure que Pinterest, c'est un réseau social où, c'est pas que c'est individuel, mais on y va un peu pour soi, pour son inspiration.
Oui, c'est ça. Par exemple, c'est vrai que la plateforme reflète un peu plus les vraies envies des utilisateurs dans la mesure où peut-être un homme sur Pinterest qui veut faire une détox va taper détox sur Pinterest, alors que c'est pas forcément un sujet qui va taper sur Facebook.
Ah, c'est clair, je vois.
Donc, comme voilà, ça reste une démarche personnelle, il va aller dans ces types de sujets-là. Donc, sport, oui, ça va se présenter sous forme de jeux vidéo, par exemple. Hein, quand on démontre l'utilisation d'un produit sport, c'est toujours...
Mais ce que j'allais dire, tu vois, c'est que les vidéos, c'est pas forcément des vidéos du type, je sais pas moi, montrer plein d'exercices, parce que ça, c'est plutôt sur YouTube ou sur Instagram, ou même Facebook, mais plutôt des vidéos où justement tu vas montrer directement le produit, vu que c'est ce qui intéresse les gens.
Oui, c'est ça. Faut montrer le produit en action. Bon, okay. Là, c'est sûr que la vidéo pour ça est complètement adaptée à Pinterest. D'autant plus que, pour une petite parenthèse vidéo, il y a des chiffres dernièrement sur la vidéo qui montrent que sur Pinterest, le taux de complétion des vidéos, donc le fait que les gens ils aillent jusqu'au bout de la vidéo, il est deux fois supérieur aux autres réseaux sociaux.
Ok. En tant que marque, déjà, qui sont les marques qui cartonnent sur Pinterest et, mais qu'est-ce qu'elles font pour cartonner? Comment elles créent leur contenu? Comment ils l'organisent? Là, peut-être que tu peux nous expliquer un peu tout ça.
Oui, tout à fait. Alors, les marques qui cartonnent sur Pinterest, donc ça va être aussi pas mal dans différents secteurs, mais mettons dans le secteur de la déco, puisqu'on voit que c'est 70% de l'audience.
Ouais.
On retrouve les plus gros comme Leroy Merlin, Ikea, Conforama, Maison du Monde. En fait, eux, dès l'instant où ils synchronisent leur catalogue produit, ils s'y retrouvent, puisque c'est avantageux pour eux d'avoir cet onglet shopping et d'être visible sur Pinterest. Parfois, ils n'ont même pas trop à faire de publicité dès l'instant qu'ils ont le catalogue et qu'ils font des épingles en organique, ils sont visibles.
Oui, parce que l'organique est puissant. L'organique est puissant, c'est une recherche, c'est normal, c'est comme Google, tu fais des recherches tout le temps, quoi. Est-ce que tu as une stat sur le nombre de recherches peut-être mensuelles, journalières sur Pinterest?
Alors, j'avais recherche au niveau francophone, je pourrais te retrouver ça. Combien d'épingles mensuelles? Je crois que j'ai la donnée mensuelle, mais là je l'ai pas sous le coude tout de suite. Je te retrouve ça à un moment, mais ça revient. Oh, okay. Je reviens dessus. Oh, ouais. Donc voilà des grosses marques, mais on a aussi des DNVB quand même. Ah. Un peu des Balzac Paris par exemple dans la mode. Ils ont 6 millions de vues mensuelles et il me semble pas qu'ils fassent de la publicité. Ils font pas mal d'épingles idées.
En fait, tu vois les vues en fonction de leurs tableaux et de leurs épingles. Tu peux voir le nombre de vues sur.
On le voit directement sur le compte.
Sur profil, en fait. Oui, t'as raison, c'est sur le compte, ouais, je me rappelle.
Mm-hmm. Oui, on a le nombre de vues mensuelles et le nombre d'abonnés. Donc, on peut voir ça. Après, pour savoir s'ils font de la publicité, il faut soit se faire retargeter, soit cliquer sur le profil et voir éventuellement s'ils font du retargeting ou pas.
Ouais, il n'y a pas de bibliothèque, je suppose.
Ben non, il n'y a pas de bibliothèque pour ça. Okay. La seule façon de retrouver des publicités Pinterest, c'est avec des outils du type, alors pas AdSpy, parce qu'AdSpy, c'est pour Facebook et Instagram, et ça va être BigSpy. C'est un concurrent qui, lui, fait à la fois Pinterest, etc. Mais bon, cet outil est pas si mal, mais je trouve qu'il est moins bien fait, en tout cas, que AdSpy, et c'est pas si évident que ça de retrouver des marques.
Ok.
Alors oui, sinon sur les marques de cosmétiques fonctionnent généralement très bien sur Pinterest. Les grosses marques aussi, bon, Sephora est évidemment présente, d'autant que aux États-Unis, dispose de l'option try-on. C'est en fait une option de réalité virtuelle, de réalité augmentée. Par exemple, pour les rouges à lèvres, les fards à paupières, la personne a juste à appuyer sur la teinte pour la voir s'afficher sur son visage, enfin sur mobile.
Ouais, c'est génial. Ouais. Franchement, c'est déjà actif là aux États-Unis, comme tu dis.
Ouais, c'est déjà actif. Ouais, c'est déjà actif depuis l'an dernier. Et maintenant, ce qu'ils font, mais toujours aux États-Unis, c'est l'option try-on pour la décoration. Donc ça, c'est tout récent et c'est avec des grosses marques comme Walmart et d'autres grosses marques de décoration. Où à ce moment-là, on va pouvoir sélectionner un canapé, mettons, et le voir au niveau des proportions dans son salon, virtuellement dans son salon, en plaçant son téléphone à l'endroit de notre choix.
Voilà, vous savez maintenant qui sont les personnes présentes sur Pinterest et ce qu'elles viennent y faire. Je vous propose maintenant de découvrir comment cibler ces personnes sur Pinterest. De retour à ma conversation avec Nathalie. Par contre, on peut s'attarder sur les audiences. Comment est-ce qu'on cible une audience sur Pinterest? Quelles sont les différentes façons de faire? Et bien sûr, faire des parallèles avec Facebook si c'est possible.
Oui. Bah, on va avoir aussi le choix des audiences. C'est basé sur des intérêts, d'une part. Donc, il y a une vingtaine d'intérêts, ce qui est quand même
là enfin, je veux dire, c'est seulement, par rapport à Facebook,
ouais. Alors, vingtaine de gros intérêts avec des sous-intérêts et des sous-sous-intérêts. Par exemple, on va avoir mode femme, et puis en dessous, on va avoir tous les différents sous-intérêts de la mode femme qui vont être les bas, les hauts, les etc. Enfin, et en dessous des sous-sous-intérêts. Donc il y a ces intérêts-là. Ouais, clairement une vingtaine, c'est beaucoup moins que sur Facebook. C'est sûr qu'on a moins un niveau de précision qui est moindre hein, par rapport à Facebook. On va pas, par exemple, pouvoir cibler les revenus de temps à temps, les parents d'enfants de tel âge à tel âge. Là, on va pas pouvoir le faire. On va être plus large, vraiment plus large. Et il vaut mieux cibler plus large d'ailleurs, surtout je pense en francophonie où les audiences sont pas les mêmes au niveau des tailles que dans le monde anglophone.
Mais du coup, c'est quoi la stratégie? C'était par exemple dans la mode, est-ce que tu vas forcément cibler l'intérêt mode ou tu vas plutôt être plus segmenté au début?
Ouais, bah tu peux tout sélectionner, mais t'as intérêt aussi à sélectionner les sous-intérêts et les sous-sous-intérêts, puisqu'après ça va te permettre, quand tu analyses tes campagnes, de si tu veux, de splitter un petit peu tout ça et de voir ce qui a mieux fonctionné, quand tu les sélectionnes, en tout cas. Parce que si tu les sélectionnes
pas. Donc si tu prends par exemple. Dans la mode, si tu prends...
Tu coches, en fait.
On coche plusieurs tu et après, coucher. Tu peux voir une semaine plus tard lesquels ont le mieux fonctionné dans l'audience.
Voilà, c'est ça. Ouais, donc, c'est ça, en les cochant.
Dès que Facebook donc, se ça, renseigne, on fait pareil.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et ben oui, parce que sinon, tu n'as pas trop de vues sur le gros intérêt. Donc là, ça va permettre d'avoir une vue sur ce qui fonctionne exactement. Il y a aussi une case qui là est pas intéressante, je sais, sur Facebook, mais qui va être plutôt intéressante sur Pinterest, c'est le ciblage élargi. Parce que, je sais pas si c'est toujours le cas, mais sur Facebook, le ciblage élargi, en gros, ça va te choisir des personnes qui ont parfois rien à voir avec l'audience, hein, il me semble.
En fait, pour moi, le ciblage élargi, c'est quand tu mets aucun intérêt.
Ah, d'accord, ok. Oh, oui. Ben ici, le ciblage élargi, ça va te permettre d'ajouter à ton audience des personnes auxquelles tu aurais à voir. Oui, l'algorithme
alors va te trouver. Alors, c'est l'extension du ciblage avancé. C'est-à-dire qu'en fait, Pinterest, comme Facebook, à mon avis, ils vont chercher des personnes en dehors de tes sélections de ciblage de base. Donc, par exemple, tu as mis mode, il va aller en dehors de la mode et trouver des personnes. Je pense que c'est vraiment pareil.
Ah oui, pour le coup, ouais. Oui. D'accord, mais je n'avais pas vu cette évolution chez Facebook, oui.
Mais par contre, en termes de stratégie, donc si vraiment tu lances une campagne, tu vas peut-être, admettons que tu vas dire, voilà, il y a deux audiences pour moi qui sont intéressantes, une audience mode et une audience, je sais pas, c'est une autre idée, déco ou autre chose.
Par exemple, beauté.
Voilà. Oui, et tu sélectionnes.
Tu vas avoir deux audiences.
Il y a deux audiences, mais dans les deux audiences, tu coches plusieurs intérêts qui pourraient être intéressants dans cette...
Ouais, c'est ça. Donc, tu vas par exemple faire une audience mode avec les intérêts sur les articles de sport, une autre audience mode avec des intérêts sur des articles maillot de bain, et puis ainsi de suite. Et ce que tu peux faire aussi, c'est les mots-clés. En fait, justement, on a comme ça une logique un peu hybride entre Facebook et Google sur Pinterest, puisqu'on va avoir aussi la possibilité de cibler par mots-clés. Alors, soit juste les mots-clés, donc on va se faire un groupe d'annonces uniquement basé sur des mots-clés, ou soit les deux, c'est-à-dire intérêt plus mots-clés. Moi, j'ai essayé aussi les deux, et ça peut être intéressant, surtout sur des niches très compétitive comme la décoration. C'est vrai que si on tape sur l'intérêt de décoration qui va être très très large pour le coup, qui va prendre les trois quarts des personnes sur Pinterest, il vaut mieux à ce moment-là affiner avec des mots-clés.
D'accord, on peut affiner avec des mots-clés. Et évidemment, on peut voir la taille de l'audience et se dire, OK, là, j'ai 15 millions alors qu'il y a 19 millions de personnes, c'est quand même bizarre.
C'est ça.
OK, mais il y a une autre question qui me revient en tête, c'est un peu technique, mais quand tu choisis mode, par exemple article de sport et encore un autre sous-intérêt, tu le mets dans le même groupe ou dans deux groupes différents?
Si tu choisis, alors tu vas mettre dans deux groupes différents. Par exemple, ça dépend de la taille d'audience. C'est vrai qu'il faut que ce soit suffisamment large aussi. Okay. Il vaut mieux avoir un minimum 500 000 personnes dans une audience sur Pinterest.
Okay. Oh, oui.
Et vraiment minimum.
Et le ciblage élargi, tu le fais tout le temps ou tu le coches seulement dans certaines situations?
Ben, c'est pas mal. Moi, je le fais tout le temps parce qu'en fait, et ça permet, si vraiment on s'est planté, de récupérer quand même des ventes, des achats sur des catégories auxquelles on n'aurait pas pensé.
Ah bah, parfait.
Donc ouais, c'est plutôt positif. Non, vraiment. Au début, j'étais assez méfiante parce que sur Facebook, moi, ça n'avait pas fonctionné ce type de ciblage. Mais ici, ouais, c'est pas mal du tout. Après, l'inconvénient de cocher cette case, c'est qu'on ne sait pas vraiment sur quoi ça s'est tombé
au
final.
Ah oui, c'est comme Facebook, ouais. C'est une boîte noire. Ok, c'est clair. Donc, ciblage par intérêt avec éventuellement ciblage élargi. Ciblage par mot-clé pour soit de segmenter, soit de faire un groupe d'annonces spécifique avec que des mots-clés. Et enfin, ouais. Est-ce qu'il y a aussi une sorte de look-alike dans Pinterest ?
Oui, tout à fait. Alors, sur Pinterest, ils appellent ça les act-like, audience act-like. Bon, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on va pouvoir uploader nos visiteurs. Enfin, on va pouvoir uploader plutôt, créer des audiences de visiteurs à l'aide de la balise. Visiteurs, ajout au panier, achat aussi. On va pouvoir uploader cette fois-ci le fichier client. Et à partir de là, créer des audiences similaires. Donc, les audiences similaires, après, c'est un peu pareil que sur Facebook, là aussi. On va choisir le pays et la taille en pourcentage de cette audience-là, donc de 1 à 10%. Ouais. Et sur Pinterest, comme évidemment, par exemple, je pense à la francophonie, les audiences ne sont pas aussi grandes que sur les États-Unis. Là, à ce moment-là, on vaut mieux partir sur 1%, 5%, 10% pour qu'il y ait vraiment des différences. Parce que entre 1 et 5%, si on prend 2%, ça ne va pas être hyper énorme comme différence.
Ah oui, donc en fait, tu fais trois audiences différentes, une à 1, une à 5 et une à 10.
Mettons, oui. Ouais, ouais. Okay. C'est ça. Okay. Et donc, on a ça, les audiences look-alike. Voilà, oui, c'est audiences look-alike sur les visiteurs, ajout au panier. Mais il faut quand même pas mal d'occurrences pour faire une audience look-alike. Par exemple, on peut faire aussi avec les interactions avec le compte Pinterest lui-même.
Intéressant, parce qu'il y a des comportements d'achat.
C'est ça, ouais, vraiment. Par exemple, on peut aussi sélectionner une épingle en particulier. On dit, voilà, cette épingle, elle a eu beaucoup d'impressions, a généré de l'achat. En plus, là, on refait une campagne sur un produit similaire. On va prendre une look-alike sur toutes les interactions par rapport à cette épingle-là.
Bon, ouais. Facebook a beaucoup d'inspiration à prendre parce que c'est des fonctionnalités dont on rêve pour pouvoir cibler une publication en particulier ou une vidéo.
C'est vrai.
Enfin, une vidéo, on peut, mais pour seulement les personnes qui ont vu la vidéo. Ok, ouais. Ben, c'est clair pour moi. TikTok, c'est un réseau social pour adolescents. Vous n'allez jamais pouvoir vendre vos produits sur ce réseau. Ça, c'était une croyance populaire il y a encore un an. Sauf que maintenant, TikTok n'est plus un réseau social d'ados et de jeunes adultes. Étant donné que la plateforme a déjà dépassé le milliard d'utilisateurs, elle commence tout doucement à attirer des personnes un peu plus âgées, notamment les personnes de la génération Y, à savoir des personnes qui ont entre 25 et 40 ans. Donc non, TikTok n'est plus un réseau social composé majoritairement d'adolescents. Et je vous propose de laisser Antoine Godefroy, le fondateur de l'agence Slick, nous en dire un peu plus.
En France, on est sur plus de 17 millions d'utilisateurs mensuels actifs. La majorité des utilisateurs à plus de 40%, on est sur du 18-25. Et la seconde audience majoritaire, on est sur du 25-34.
Okay.
Donc là, on peut se dire, ok, mais du coup, ces adolescents, ils sont où ? En réalité, d'après les chiffres qui sont communiqués par TikTok, ils sont pas tant que ça, en fait. Et ils sont de moins en moins. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que l'audience grandit, on avait tellement une forte part d'adolescents par rapport à toute l'audience qu'il y avait que là, du coup, on a des gens qui sont des 18-25 et des 25-35 qui arrivent sur l'application, ce qui fait que la part d'adolescents de moins de 18 réduit considérablement. Donc, on a vraiment un réseau social qui gagne en maturité. Ensuite, au niveau des parts hommes-femmes, on a une majorité de femmes, mais légèrement, c'est-à-dire qu'on est quand même aux alentours de 55-60% de femmes.
TikTok et son audience ont plus de secrets pour vous. Maintenant, comment est-ce qu'on fait un bon ciblage sur TikTok ? Et là, Antoine va nous en dire un peu plus dans un instant. Mais par contre, j'aimerais bien peut-être revenir sur tout ce qui est ciblage. On n'a pas trop parlé, donc tu as parlé de look-alike. Est-ce que ça marche vraiment ? Parce que sur Facebook, ça marche bien. Ça marchait très bien. Maintenant, ça marche un peu moins bien. Est-ce que sur TikTok, c'est fiable ce type de ciblage-là ?
De toute façon, c'est vraiment à tester en fonction du produit et en fonction des créas. Parce qu'en fait, c'est ça qui est assez dingue, c'est que la créa, qui est quelque chose de très peu rationnel, tu vois, ça a un impact qui est tellement grand sur la campagne que c'est vraiment assez difficile de savoir d'isoler en fait la variable et de se dire ok, c'est la créa ou c'est au niveau d'avoir fait des lookalikes. Maintenant, moi, des retours que j'ai pu avoir, en effet, ça fonctionne bien, mais l'algorithme, normalement, en termes d'optimisation, avec les données qui remontent à partir du moment où on a des bons budgets et que du coup on a des événements. Donc si on est sur des campagnes plutôt à la perf, normalement c'est là où il fait le meilleur ciblage.
D'accord, ouais. Et au niveau des ciblages par intérêt, ça marche comment à ce niveau-là? C'est comme dans Facebook, tu as plein d'intérêts disponibles?
T'as des intérêts, donc ça va être... Il y a deux choses, c'est soit au niveau des intérêts, donc typiquement t'aimes les voitures, etc., ou t'aimes la mode, et ensuite t'as aussi les contenus avec lesquels t'as engagé, donc c'est un peu différent. C'est en gros, sur les 7 derniers jours, je regardais beaucoup de vidéos de gens qui dansaient, donc tu vois, ça va être un intérêt du comportemental plutôt.
Ouais, c'est ça, c'est comportemental, donc c'est trop bien ça. Okay. Ouais. Ouais, ça a l'air bien puissant.
Et donc TikTok te fait des recommandations, tu vois, quand tu uploads ton ads et que tu finalises ta campagne, tu peux repasser sur la groupe et il va te proposer directement des recommandations.
Et d'après ce que tu dis, ça reste qualitatif ça, ces recommandations-là, ouais. On peut quand même leur faire confiance. Ouais.
Okay, dans les A/B tests qu'on avait eu, en tout cas, on avait eu des résultats qui étaient similaires ou supérieurs.
D'accord, super. Et au niveau des ad groupes, est-ce que tu en as beaucoup dans la campagne ou est-ce que tu te limites à un certain nombre comme sur Facebook?
Au niveau des ad groupes, il faut pas forcément en avoir beaucoup. Tu vas pas forcément faire du gros test d'ad groupe. C'est vraiment plutôt d'avoir un ad groupe assez large déjà sur lequel tu commences. Et en fait, le mécanisme d'optimisation sur TikTok, c'est tu commences avec un objectif, tu vois, de campagne qui va être assez large, donc ramener du trafic. Ensuite, tu vas faire un objectif et tu vas être sur quelque chose qui va plus être de l'ad to cart. Et ensuite, tu termines sur de l'achat. C'est-à-dire que tu dois optimiser par funnel tes campagnes pour commencer large et du coup avoir de la data qui remonte et ensuite cibler de plus en plus précisément. Si tu commences directement, et on a fait un peu ces erreurs-là, à directement cibler sur de la conversion,
ouais.
Et ben en fait, tu n'auras pas de data qui va remonter, ça va spend du budget, il ne va pas réussir à trouver en fait. Donc tu dois l'aider là-dessus.
Tiens, c'est marrant que tu dis ça, parce que sur Facebook, justement, on dit qu'il faut totalement éviter le trafic et la jouer au panier, ouais, qu'il faut directement ton conversion achat. Sur TikTok, il faut avoir les trois en même temps.
En fait, c'est tu commences d'abord par du trafic, ensuite tu fais de view content, add to cart et achat.
Tu dois y aller pas à pas. Faire... Et c'est au sein d'une même campagne ou est-ce que tu dois dupliquer les campagnes?
Au sein d'une même campagne, si tu dupliques ta campagne, tu perds les apprentissages.
Ok, ouais. Et donc t'as aussi une phase d'apprentissage comme sur Facebook, genre...
Tout à fait, ouais, avec un nombre de conversions.
C'est un copier-coller, ouais, c'est un truc de fou. Et c'est il faut pareil. Aussi 50 conversions par semaine ou c'est...
Je crois que c'est 50, ouais.
Ok, donc ouais, c'est très très similaire. Ah, Snapchat. Je ne sais pas vous, mais ces dernières années, j'ai cru que ce réseau social était un peu mort, en tout cas n'évoluait plus vraiment. Sauf que depuis quelques mois, de plus en plus d'annonceurs m'en parlent. Et justement, j'ai lu récemment que Snapchat a atteint les 25 millions d'utilisateurs mensuels en France. Et Snapchat est désormais la première application mobile la plus visitée au quotidien chez les 15-49 ans et le troisième réseau social le plus utilisé sur le territoire français. Ce qui est énorme. Et comme pour TikTok, j'ai envie de vous dire la même chose. Les personnes qui utilisent Snapchat ne sont pas juste des adolescents. Et je vais laisser Nathan Elmaleh, le fondateur de l'agence Needs, nous en dire un peu plus. Et au niveau de la typologie de l'audience en elle-même, si tu peux me dire un peu qui sont les personnes sur Snapchat au-delà des stéréotypes que c'est juste des ados et des jeunes adultes.
Non, alors c'est vrai qu'en termes de temps passé chaque jour, c'est le premier réseau social chez les 15-24. Donc c'est clairement jeune. Maintenant, nous, dans les insights qu'on voit de nos publicités, on note quand même qu'il y a encore beaucoup de gens qui ont entre 24 et 35. Donc c'est quand même une cible jeune et à la fois pas jeune. Je pense que c'est dû au fait que Snapchat, c'est une application qui a été lancée, je crois, en 2011, si je ne me trompe pas, et qui a eu beaucoup de succès au départ. Et donc, il y a forcément une population moins jeune qui avait l'habitude d'avoir cette appli.
Ouais, je vois. Bah ouais, en 2011, c'était il y a finalement 11 ans. Donc, en effet, si tu es arrivé sur Snapchat à 18 ans, tu en as maintenant 29. Donc, clairement, c'est tu ça. Fais partie un peu du cœur de cible pour de nombreuses marques DNVB. Donc, on reparlera des DNVB plus tard, je pense. DNVB, finalement, des marques qui ciblent les millennials. Hein. Je pense que c'est le cœur de cible qui s'intéresse aux marques qui ont des valeurs, qui cherchent des produits un peu qui sortent de l'ordinaire, en quelque sorte, et qui sont vendus différemment que par les grands groupes. Donc, c'est vrai que... Pour les DNVB particulièrement, Snapchat peut être intéressant. Niveau démographie, est-ce que tu as une tendance entre hommes-femmes? Est-ce que c'est plus des hommes ou des femmes qui sont dessus? J'ai peut-être mon idée derrière la tête, mais je vais pas le dire.
Ouais, non, c'est un peu plus de femmes, je crois. Faudrait que je repointe. Ouais, c'est 52-47. Donc.
Ok, c'est pas si déséquilibré ce que j'avais en tête. J'aurais dit 60-40, mais ok.
Ouais, non. En France, en tout cas. Okay. 52-47, ouais.
Niveau usage, est-ce que tu as une stat sur le temps que les gens passent par jour sur Snapchat? Je ne sais plus si tu en as parlé.
Ouais, alors c'est 38 minutes par les Français.
38 Donc, minutes, mais c'est énorme.
C'est vraiment bien. TikTok, je crois, on était autour des 14-15, donc c'est encore au-dessus quand même.
Ouais, et c'est Facebook, je pense, c'est 28 minutes, hein, si j'ai pas de bêtises. C'est genre dans les un peu moins de 30 minutes, si je dis pas de bêtises, il faudrait que je revienne sur les chiffres. Facebook a perdu des utilisateurs, c'est assez incroyable ça. 1 million d'utilisateurs qui ont été perdus.
Clairement.
Ça montre aussi que Facebook, c'est pas qu'ils vont se faire détrôner, mais on voit qu'il y a une perte d'intérêt pour la plateforme. Et donc, du coup, des plateformes comme Snapchat, comme TikTok, ben, commencent à gagner gagner le cœur de certains utilisateurs qui les avaient délaissés. Ou s'ils sont jamais intéressés. Ok, Snapchat c'est super, les millennials ils sont très présents et ils passent du temps. De plus, une partie d'entre eux ne se trouve même pas sur Facebook ou sur Instagram. Alors comment est-ce qu'on fait à cibler ces personnes sur Snapchat? Eh bien c'est ce que je vous propose de découvrir dans le dernier extrait de cet épisode.
En fait, je trouve que sur Snap, ce qui est vraiment important, alors dans Facebook aussi, tu vas me dire, mais dans Snap, c'est vraiment de penser en amont déjà à la structure. Parce que clairement, la structure, ça va être hyper important. C'est-à-dire que, est-ce que t'es monoproduit ou t'es une marque avec des gammes, des collections, et dans ce cas-là, tu vas travailler par campagne? Est-ce que tu travailles sur un seul pays ou plusieurs pays? Clairement, on le voit, la structure, ça permet vraiment de maximiser. Une bonne structure, ça maximise tes ROS. Donc déjà, vu que t'as pas cette notion de CDO, ABO, faut vraiment penser en amont à la structure. Ensuite, ça va être un peu comme dans Facebook. Donc, tu crées ta campagne, tu vois, tu vas créer ta campagne en fonction, je sais pas, de ton objectif. Typiquement, un objectif de conversion. Dedans, tu vas créer des ad sets. Donc, n'oublie pas que c'est là où tu vas définir justement ton ciblage et ton budget.
Ok.
Donc, tu vas créer, je sais pas, un ad set. Alors, ce qui est bien, c'est qu'au moins, tu peux avoir dans une même campagne tes mêmes ad sets. Enfin, tu peux avoir des ad sets d'acquisition, de réengagement, de retargeting. Et comme le budget se répartit sur cette partie-là, donc tu n'as pas, comme sur Facebook, la notion de cannibalisation. C'est-à-dire que si tu vas t'amuser, je crois, sur Facebook, à mettre une campagne d'acquisition en broad, par exemple, avec une campagne de retargeting, bah forcément, tout le budget va être alloué sur la campagne d'acquisition.
En effet, d'où le fait que nous, on sépare acquisition et retargeting d'office. On a deux campagnes séparées. Donc, sur Snapchat, tu es en train de dire que finalement, tu as tout dans une campagne de conversion.
Exactement. Tu peux tout mettre dans ta même campagne. Ça, c'est un super truc. En termes de visibilité, en tout cas, pour les résultats, c'est plutôt cool. Et une fois donc, que tu as fait tes ad sets, je ne sais pas, on va dire d'acquisition en centre d'intérêt ou en lookalike, tu as quand même pas mal de ciblages qui sont disponibles. Là-dedans, tu vas mettre tes pubs. Et puis, tu cliques sur le bouton play et c'est parti.
Ok, donc finalement, très similaire à Facebook, tu peux mettre autant de pubs que tu veux dans un ad set.
Ouais, tu peux mettre autant de pubs que tu veux dans un ad set. Par contre, il y a une vraie subtilité aussi sur Snap par rapport à Facebook, c'est que tu ne peux mettre qu'un format de pub par ad set.
Ouais, c'est chiant.
Mais c'est un peu chiant. Donc si tu veux mettre, par exemple, sur le même ciblage des formats collection et des formats story, tu vas être obligé de faire deux ad sets. Mais ils travaillent dessus et en théorie, en 2022, on devrait pouvoir... avoir plusieurs formats dans une même...
Ah non, mais j'ai vraiment l'impression qu'on est sur du Facebook en 2015. Hein. C'est pas méchant, mais c'est encore le début, quoi. C'est encore le début. Et niveau place, donc les formats, donc on en parlera après. Donc tu parlais de stories et de collections. Au niveau des assets, est-ce que tu peux aussi modifier le placement en dire, comme sur Facebook, tu dis, j'aimerais bien que ça soit uniquement en flux d'actualité, que ma publicité est diffusée, et pas en stories. Est-ce que là, tu as une notion de diffuser tes publicités à seulement certains endroits ou tu n'as pas le choix?
Non, pas vraiment. C'est vraiment dans Snap, quoi. Donc,
dans Snapchat.
Ouais, exactement.
Comment est-ce que Snapchat définit tes intérêts? Est-ce que c'est comme Facebook en fonction de ce que tu notes sur ton profil et de ton interaction avec d'autres comptes, d'autres contenus? Ou est-ce qu'il y a une autre subtilité?
En fait, tu vois, tout à l'heure, je te parlais justement des 5 piliers de l'application qui permettaient de capter de la data. Et donc, en fait, il y a énormément de data dans Snap.
Ouais.
Et c'est pas forcément dans les discussions que tu vas avoir ou c'est plutôt genre dans les vidéos que tu vas regarder, dans toutes les parties de Snap que tu vas utiliser qui vont pouvoir capter tes intérêts.
D'accord, ouais. C'est vrai que sur le coup, j'ai même un trou de mémoire là sur Facebook. Est-ce que normalement, il sait, admettons que tu regardes une vidéo sur la musculation, normalement, il sait de quoi traite la vidéo. Et donc, si tu regardes une vidéo sur la musculation, il va te mettre comme étant une personne intéressée par ça. Donc, je suppose que sur Snapchat, c'est un peu la même chose.
Complètement.
Niveau lookalike, ça se passe comment? Tu peux exporter un fichier client? Tu fais ça avec ton partenaire, ton pixel?
Ouais, là-dessus, tu as vraiment tout. Tu as le fichier client qui existe. Tu as les lookalikes sur les acheteurs, sur les ajouts au panier. Tu as une notion de reach et broad sur Snap. C'est un peu la notion, tu vois, des 1%, 3%, 5% sur Facebook. Donc, plutôt ciblage serré ou ciblage large.
Ok.
Donc, tu as vraiment, encore une fois, en termes de ciblage, là-dessus, on est sur une plateforme qui est assez avancée.
D'accord. Et niveau ciblage, est-ce qu'on est comme sur Facebook, du type plus vous ciblez large, mieux c'est, ou alors c'est plutôt faites attention à la taille de l'audience?
Ouais, depuis iOS 14, c'est plus vous serez large, mieux ça sera.
Ok, bon, bah vraiment là, il y a beaucoup de similitudes entre les deux plateformes, c'est clair. Est-ce qu'il y a des erreurs à éviter quand tu crées ta campagne?
Ben, je te disais, l'erreur, c'est de faire une mauvaise structure de campagne. Ça peut vraiment te jouer des tours, parce que du coup, si tu lances tes campagnes et que tu commences à capter de la data et qu'au bout d'un moment, tu te rends compte que c'était pas la bonne structure et que tu dois la changer, tu vas être obligé de refaire d'autres ad sets et là, tu vas perdre un peu toute la data que tu as collectée avant.
Ouais.
Voilà, donc c'est principalement au niveau de la structure. Et des formats. Après, encore une fois, comme on en a parlé tout à l'heure, il faut pas, je pense, hein, qu'il faut pas s'amuser à prendre des formats Insta et les mettre sur Snap. Il y a vraiment des codes sur cette plateforme. T'as vraiment des choses très spécifiques à la plateforme. Et du coup, comme t'as beaucoup d'utilisateurs exclusifs, ils vont pas forcément se reconnaître dans ces formats-là.
Écoute, je veux bien revenir là-dessus un peu sur les options de ciblage en retargeting. Donc, on a les personnes qui vont sur ton site. Je suppose que tu peux recibler les personnes qui vont acheter sur ton site, qui vont ajouter des produits au panier, qui vont voir des pages produits. Et ensuite, au niveau à même la plateforme, qu'est-ce qu'il y a finalement comme possibilité de reciblage sur Snapchat?
Ouais, exactement. Alors déjà, via le pixel, tu peux recibler effectivement tous les visiteurs, que ce soit les visiteurs du site d'un page ou que ce soit les visiteurs qui ont vu des contenus, donc je sais pas, les fiches produits ou les pages collection. Et tu as évidemment toute la data qui remonte au niveau des paniers, les ajouts, les ventes, etc.
Okay.
Maintenant, à l'intérieur même de l'appli, tu as encore beaucoup de data et principalement, c'est ce qui se passe au niveau, par exemple, des stories. Donc, je te disais, tous les swipe-up sur les pubs, ou que ce soit même des vidéos, en fait, tous les utilisateurs qui auront swipé sur une vidéo ou qu'ils auront vu, ça, c'est des choses que tu peux re-cibler.
Ouais. D'accord. Et admettons, je me rappelle pas s'il y a un bouton like. Je dis peut-être vraiment une question très triviale, mais il y a un bouton like sur Snapchat.
Non, tu peux.
Ouais.
Mais par contre, une chose aussi, tu vois, une subtilité qui peut être intéressante de Snap par rapport à Facebook Ads, c'est que quand tu fais ton DPA sur Snap, tu peux aller recibler jusqu'à 180 jours. Ça, c'est plutôt cool.
Sur Facebook aussi, tu peux.
Sur aussi.
Ouais, tu peux faire 180 jours. Ouais. Mais après, bien sûr, c'est peut-être moins précis. Donc, je ne sais pas à quel point le reciblage 180 jours sur Snapchat est bien. Mais ouais, non,
en fait, c'est surtout qu'il est récent. Tu ne l'avais pas il y a encore 3-4 mois.
Et avant, tu avais quoi? Juste 14 jours, 30 jours?
C'était limité à 30 jours. 30 jours, ouais.
D'accord. Ouais. Mais par contre, quand tu veux recibler tes visiteurs, peu importe ce qu'ils ont visité comme page, tu vas jusqu'à 6 mois.
Oui, là, oui.
Ok, d'accord. Ouais. Et tu as aussi un API de conversion comme Facebook où tu t'es limité au pixel qui peut justement être bloqué avec les cookies ou les tracking sur iOS?
Non, tu as aussi une API de conversion sur Snap.
Facile à installer, je suppose, avec Shopify?
Là-dessus, alors je sais pas toi ce que tu en penses sur Facebook, est-ce que c'est vraiment facile à installer? Peut-être qu'avec Shopify c'est assez simple, mais nous la dernière fois qu'on l'a manipulé c'était sur un PrestaShop et c'était pas forcément évident.
Ah ben sur PrestaShop c'est pas forcément évident, il y a des modules qui le permettent, mais j'ai pas l'impression que ces modules font toujours bien le job et peuvent peut-être installer faire des mauvais réglages en tout cas.
Ouais, c'est ça.
Du coup ça dépend, sur Shopify c'est très simple et ça marche bien, donc évidemment c'est ce que veut Shopify, c'est que ce soit super simple de l'installer partout sur Facebook, sur Snapchat, peut-être Google aussi, donc ouais, je comprends totalement.
Ouais, ça, franchement avoir un Shopify quand tu fais du e-commerce c'est un rêve, en tout cas quand tu fais du paid social.
Ok, d'accord. Bah écoute, c'est compris pour le reciblage et pour le reciblage dynamique. C'est terminé pour la deuxième partie de cet épisode consacré aux possibilités de ciblage offertes par Pinterest, TikTok et Snapchat. Réaliser ces deux épisodes sur le ciblage en multicanal nous a pris pas mal de temps et d'énergie, donc j'espère que ça vous a plu. Et moi, je pense de mon côté en faire un article plus complet. Donc dès que ce sera fait, je vous le dirai sur le podcast. Si les épisodes de ce podcast vous plaisent, ça me ferait super plaisir d'avoir votre avis et pourquoi pas de nous donner une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, parce que c'est grâce à vos partages et vos avis que la communauté du podcast se développe. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.